Salut prof Chain.
Salut Valentin.
Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger ensemble sur une actualité, sur une manière d'analyser les choses, sur une manière de lire les données de la blockchain qui est passionnante. C'est de l'analyse on-chain. Je te présente rapidement, mais tu vas le faire dans quelques secondes. Mais puisqu'on travaille ensemble, j'ai un peu plus de connaissances sur toi que certains des invités que j'ai la chance de recevoir ici, puisque tu analyses on-chain, du coup. Pour Cryptost, pour le Grippin, qui est un des groupes qu'on a sur Cryptost depuis plus d'un an maintenant. Et ton travail, justement, consiste à aller regarder les données de la blockchain qui est publique, qui, justement, c'est toute la force de la blockchain, permet à n'importe qui d'être audité. Mais encore faut-il comprendre les informations que délivre cette blockchain, et c'est là ton travail. Donc, c'est passionnant de coupler ça avec de l'analyse technique, comme peut le faire Vincent Gagne, justement. Et c'est ce que tu proposes depuis un petit mois sur YouTube chez nous. Et on va voir en quoi consiste cette activité. Donc, merci de prendre un petit moment pour nous expliquer ça. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur allez, comment tu es tombé là-dedans, s'il te plaît?
Ah, ça fait plaisir, merci déjà de cet appel. Bah, pour faire simple, moi, depuis, en gros, je me suis intéressé aux crypto-monnaies en 2016-2017. Donc, pour beaucoup, je suis rentré dans le bull run au niveau de septembre 2017, juste avant le top. Et comme beaucoup de personnes, en réalité, j'ai acheté l'exact top et je me suis fait rect pendant le marché baissier qui a suivi. Et du coup, je me suis vachement intéressé du coup à la théorie d'investissement, à l'analyse technique, à l'analyse fondamentale. Et il y avait quelque chose qui manquait, en fait. J'arrivais pas. Il manquait une certaine forme d'information concrète, notamment due au fait qu'on avait des blockchains avec des blockchains auditables et ouvertes. Je me suis dit, comment est-ce que ça se fait qu'on ne soit pas capable d'avoir des informations plus pertinentes que juste l'ombre du prix sur les marchés financiers, le cours du prix et tracer des lignes en fait avec des indicateurs techniques. Et à partir de ce moment-là, vers l'hiver 2020 environ, j'ai réussi à trouver des indicateurs on-chain. Je me souviens, les premiers que j'ai vus, c'était Willy Woo qui les avait partagés sur Twitter. À ce moment-là, je commençais un peu à comprendre qu'en fait, la sphère Twitter était hyper intéressante pour tout ce qui était Bitcoin et crypto-monnaie. Et donc, j'ai eu un déclic où il étudiait en fait l'ancienneté des Bitcoins sur la blockchain et il étudiait à quel point les Bitcoins qui étaient anciens ou jeunes étaient dépensés par les participants. Et j'ai eu un grand déclic, je me suis dit, mais ça, c'est du concret. Ça, c'est quelque chose justement qui a une information riche de sens. Et une fois que tu es capable d'aller extraire cette information des données de transactions publiques de la blockchain et d'en faire une interprétation qui soit saine et non biaisée, et ben là, tu peux vraiment avoir un edge, tu peux vraiment avoir un avantage informationnel, tu peux vraiment détruire l'asymétrie d'information par rapport à d'autres acteurs qui sont encore en train de se poser des questions et qui essaient de prédire en traçant des lignes ou autres. Après, je pense que l'analyse on-chain, l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont pas forcément des choses qui doivent être concurrentielles et qui doivent être justement complémentaires. Donc, en soi, je pense que c'est très très bien de pouvoir avoir plusieurs prismes de pensée et de les adosser à ce qu'on veut, de prendre le meilleur de chaque. Donc ça, c'était à peu près en hiver 2020. Ensuite, j'ai ouvert un compte où j'ai commencé à me former en fait vers l'été 2021. J'ai ouvert un compte Twitter ensuite où j'ai commencé à partager l'information. Et après, bah, j'ai écrit la première analyse on-chain pour Cryptost en novembre 2021, du coup en hiver 2021. Et depuis, bah, on fonctionne très bien et on a une audience qui grandit de jour en jour.
Et oui, depuis un an, effectivement, on a cette dualité avec le public qui vient chercher des news classiques et puis celle qui vient regarder les cours. Et on a bien compris que ça se superposait avec justement l'ombre du prix sur TradingView, si on veut grossir un peu le trait que Vincent peut nous décrypter, mais que ça ne vient surtout pas le remplacer, au contraire. Quand tu as découvert justement cette activité-là, la première chose que tu as regardée, donc c'est autour des bitcoins qui se déplacent, qui ne se déplacent pas, mais c'est quelle est la chose qui t'a fait comprendre la puissance de cette analyse? On parle souvent, et d'ailleurs on est en plein dedans, on est à la semaine où le hash rate du bitcoin est à ses sommets historiques. Donc le bitcoin, le réseau bitcoin, la blockchain bitcoin n'a jamais été aussi sécurisé qu'aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est des indications, par exemple, qui peuvent te dire bah, quelques mois après, en général, il y a un rebond ou bah, quelques mois après, il se passe ça. Est-ce que c'est des informations importantes que tu vas ajouter à ton analyse à toi?
Oui, c'est des informations que je peux ajouter. Après, il y a vraiment deux manières de faire l'analyse on-chain. Tu peux faire de l'analyse on-chain descriptive et de l'analyse on-chain prédictive, si je puis dire. Il y a vraiment deux choses. Et après, comment dire déjà, c'est ça. Tu peux voir quel est l'état de santé du réseau et quel est l'état de santé du marché, ce qui sont deux choses différentes. Tu peux aller vérifier s'il y a beaucoup de transactions sur le réseau en ce moment. Est-ce que la même pool est surchargée? Est-ce que le hash rate et la difficulté de minage sont à un point assez élevé? Est-ce qu'il y a de la compétitivité sur le réseau au niveau de la puissance de calcul? Mais tu peux aussi aller voir, OK, économiquement parlant, est-ce que tu as des entités qui, quand elles font des transactions, elles sont plus en profit ou en perte? Est-ce qu'il y a du volume de transfert de Bitcoin qui est en profit ou en perte sur la blockchain? Quel est aussi le coût de base de tes participants? Parce que du coup, comme on est sur une architecture en UTXO, tu peux observer le prix d'acquisition de la dernière UTXO d'un des investisseurs en question. Et tu peux du coup voir si aujourd'hui, par rapport au cours spot du Bitcoin, par rapport à son prix d'acquisition, est-ce qu'il est en profit ou en perte, par exemple. Donc, tu as vraiment deux prismes. Le prisme de santé du réseau Bitcoin avec un grand B, si je puis dire, et le prisme de santé économique du token Bitcoin avec un petit B, premièrement. Et ensuite, après, il y a aussi ce côté où tu peux faire de l'analyse on-chain descriptive en mode, bon, je vois qu'en ce moment, imaginons, il y a des personnes qui sont en train de réaliser quelques pertes sur le réseau, mais qu'on est quand même à un moment où, avec le range, il n'y a pas beaucoup de pertes qui sont en train d'être réalisées historiquement comparément aux anciens bear markets, ce qui peut être du coup une description assez saine de la situation actuelle. Et tu peux aussi faire certaines prédictions parfois. J'essaie d'en faire le moins possible parce que mon objectif n'est pas d'avoir une boule de cristal. Et aussi parce que l'analyse on-chain est un outil très très jeune. En réalité, on est sur moins de 5 ans de backtest. Du coup, on est quand même sur un outil qui est encore en développement. Et du coup, j'essaie de ne pas faire trop de prédictions, mais notamment sur le hash rate. La plupart du temps, quand on a la moyenne mobile à 30 jours du hash rate qui passe au-dessus de la moyenne mobile à 60 jours du hash rate, du coup, quand on a une reprise à court terme du hash rate, c'est souvent qu'on arrive à un moment où les mineurs qui ont été en fort stress financier par le passé, quelques semaines auparavant, notamment à cause de la chute du prix et de la baisse de leurs revenus, ils ont revendu beaucoup de machines. Ces machines ont été rachetées par des investisseurs ou par des mineurs qui étaient plus résilients, qui renvoient du hash rate sur le réseau. C'est, je pense, ce qui est en train de passer en ce moment. Et la plupart du temps, c'est un élément fondamental qui va pousser les investisseurs ensuite à gagner en confiance et qui, du coup, peut, dans les mois qui suivent, apporter une hausse du prix. Après tout, comment dire? Disons que de la prédiction sans statistique, c'est de l'opinion. Et du coup, j'essaie le plus possible de ne pas faire d'opinion et d'apporter des données statistiques, des éléments mathématiques avec des modèles aussi éprouvés qu'ils puissent l'être pour justement apposer une réelle, comment dire, des données concrètes en fait à l'analyse qu'il y a derrière.
Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, de la prédiction sans statistique, c'est de l'opinion. Et alors, comment on peut s'assurer des informations qui sont à l'intérieur de la blockchain? Et donc là, j'aimerais faire juste un petit recul sur la discussion qu'on a, puisqu'on a une discussion de personnes qui connaissent le fonctionnement des blockchains et l'auditabilité, je vais y arriver, possible de tous les participants et même des gens extérieurs. Est-ce que tu peux quand même nous refaire un petit focus là en 30 secondes, une minute de bah, comment fonctionne justement la blockchain et pourquoi on est capable de regarder ce qui se passe dedans, là où pour une entreprise traditionnelle, il faut qu'il y ait un cabinet qui aille récupérer des infos, s'assurer qu'elles soient bonnes et essayer de compiler le tout.
D'accord, très bien. Bah, du coup, pour les non-initiés, je vais prendre un raccourci classique. Hein. Tu me corrigeras si tu penses que l'analogie est pas pertinente. Mais moi, une blockchain, je vois ça comme un grand livre, en fait. Un grand livre, un grand historique de transactions qui est partagé par tous les participants d'un réseau, par tous les nœuds d'un réseau. Et l'avantage d'une blockchain, c'est qu'on a tous la même histoire. On a tous les mêmes chapitres. Pour moi, un chapitre, c'est un bloc. Et du coup, à chaque fois que tu tournes une page, tu tournes un chapitre et il y a un nouveau bloc qui se crée toutes les 10 minutes. TikTok, TikTok, next block pour Bitcoin. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on a tous les mêmes données transactionnelles. On sait tous que Alice a envoyé tant à Bob, qui a envoyé tant à Pepito, qui a envoyé tant à Salamèche ou peu importe. Et le fait d'avoir des données qui sont ouvertes, qui sont auditables et qui sont publiques, eh ben, ça permet justement de pouvoir observer les données de ce réseau et d'être sûr à 100% que, eh ben, il n'y a pas de triche et que tout le monde est au courant de ce qui se passe, que tout le monde sait exactement où sont les bitcoins, comment est-ce qu'ils circulent. Et à partir de ce moment-là, tu peux avoir une. C'est même pas que tu as de la confiance, c'est que tu n'as pas besoin de faire confiance. En fait, on est vraiment sur un système qui est trustless, qui est sans confiance. Et à partir de là, tu n'as même pas besoin de te poser la question de est-ce que j'ai besoin de faire confiance aux données? Parce que quand tu es un acteur du réseau et que tu participes, en tant que nœud, en tant que full node, en tant que mineur ou simplement en tant qu'investisseur, eh ben, tu peux être sûr que les informations sont fiables parce qu'elles sont protégées par tout le monde et tous les nœuds du réseau. À partir de ce moment-là, il suffit d'aller les chercher. Et là, on peut avoir plusieurs types. Je vais développer rapidement les notions d'heuristique en analyse on-chain. Une heuristique, c'est juste un moyen, comment dire, un chemin méthodologique pour arriver à un résultat d'interprétation à partir de certaines données. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a trois types d'heuristiques. On a des heuristiques ouvertes et publiques, des heuristiques qui sont ouvertes, mais avec des calculs qui sont pas forcément publics, qui sont privés. Et après, on a des heuristiques qui sont totalement fermées et publiques. Je prends l'exemple de Glassnode, un des outils que j'utilise beaucoup. Et bah, tu as des données comme les données du hashrate. Bah, c'est une heuristique très simple et très publique. Donc, tu vas juste aller demander à la blockchain, OK, quel est le hashrate en ce moment? Et du coup, tu vas avoir ta donnée brute. Et c'est bon, c'est transparent. Tu peux déjà savoir et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ensuite, tu peux avoir des métriques qui sont un peu plus complexes. Je prends notamment les algorithmes de regroupement qui sont faits par entité. Donc Glassnode en fait propose un produit qui est payant pour le coup, où en fait ils sont capables avec des algorithmes de regroupement probabilistique de regrouper plusieurs adresses du réseau, d'en faire des clusters, d'en faire des regroupements, et de dire, OK, bah en fait, toutes ces adresses, elles appartiennent à une même entité. Le but n'étant pas de faire de l'analyse on-chain à la chain analysis et de tracer les entités, on s'en fiche bien de leur identité en soi. Ce qui est intéressant, c'est juste d'avoir une signature plus claire de ce qui se passe sur le réseau, parce que toi et moi, on sait très bien que, bah, en fait, on peut avoir autant d'adresses Bitcoin qu'on veut, et que du coup, en fait, si tu regardes aujourd'hui le nombre d'adresses qu'il y a sur le réseau Bitcoin, eh bah, tu n'as pas une trace, un signal. Tout à fait authentique en fait de ce qui se passe sur la blockchain. Et du coup, le fait de pouvoir regrouper toutes ces adresses par entité, et bah, du coup, ça diminue le nombre d'entités que tu as sur le réseau, mais tu es capable d'avoir une signature un peu plus claire, un peu plus authentique de ce qui se passe sur le réseau. Et ça, par exemple, c'est une heuristique qui est à la fois fermée et privée, parce que du coup, bah, c'est les algorithmes de Glassnode, c'est leurs analyses de données qui payent pour ça, et du coup, bah, c'est un produit qu'ils vendent aussi, quoi.
Oui, d'accord, effectivement. Ça peut servir à deux choses et on va le voir dans quelques secondes. Et j'inviterai d'ici quelques minutes ceux qui sont sur Spotify à regarder la vidéo parce que désormais on a un partenariat avec Spotify et vous pouvez regarder de la vidéo sur Spotify. Et ceux qui ont un onglet ouvert ailleurs et qui travaillent à côté de revenir parce qu'on va sur la vidéo regarder en détail comment ça fonctionne. Mais tu as mis en avant deux choses qui est l'analyse. Que tu peux faire toi pour comprendre le cours et savoir ce qu'il va faire. Et puis effectivement, Chain Analysis, j'avais fait un podcast d'ailleurs avec un de leurs représentants qui permet de tracer des flux criminels et puis d'arrêter des gens qui font qui pensent que justement Bitcoin est anonyme et qu'on peut faire n'importe quoi avec alors qu'il est pseudonyme et qu'il n'y a rien de mieux justement pour tracer des flux. Et c'est Chain Analysis qui le montre le plus. Et dans quelques semaines d'ailleurs, on sortira un podcast avec alors un autre groupe qui s'appelle. Faudrait que je retrouve, mais tout ce qui touche à la blockchain et à l'analyse de celle-ci qui est concurrente à Chain Analysis avec un gars qui a travaillé à la DEA là-bas et qui a en partie arrêté, qui a participé à l'arrestation du fondateur, tenez-vous bien, de la plus grosse place de marché de l'époque sur la crypto qui permettait de faire un peu des achats. Que certains appelaient Dark, qui était justement Silk Road. On va voir justement comment il a participé à cette arrestation et quelles sont les informations que la blockchain lui a livrées pour qu'il puisse le faire. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là, on est dans le cadre de... Comment?
Excuse-moi, c'est lui qui allait chercher les informations pour trouver Russell Brice alors.
Exactement, c'est lui qui a participé avec son
Incroyable.
équipe à choper les infos et il nous montre avec son iPad quelles sont les informations laissées par les différents intervenants de Silk Road. Pour les retrouver. Donc, c'était assez intéressant. On va pouvoir échanger avec lui. Enfin, on a échangé avec lui. On publie le podcast dans quelques semaines. Ça y est, du coup, on est sur ton écran pour ceux qui reviennent sur le bon onglet. Est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce qu'on voit? On voit des courbes, on connaît un peu ça, mais les données qui sont fournies dedans ne sont pas celles du cours du Bitcoin, mais c'est autre chose et tu vas nous montrer ce que c'est.
Exactement, je vais passer par quelques graphiques pour vous montrer un peu la diversité de ce qu'on peut trouver. Et en effet, ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'analyse on-chain, souvent on peut être surpris de la richesse en fait des données qu'on peut avoir qui ne sont rarement liées en fait au prix du Bitcoin, ou du moins ce n'est pas toujours le cas. Là, par exemple, je vais prendre des données qui sont liées à l'état de santé du réseau et à l'activité des membres du réseau. Avec, du coup, bah, je vais faire le parallèle avec ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les heuristiques. Donc là, on a le nombre d'adresses Bitcoin actives sur le réseau. Donc, je vais dézoomer un petit peu, histoire qu'on puisse avoir un historique et que vous voyez à quel point les transitions se font de manière assez surprenante. Donc, on a des grandes croissances qui sont significatives d'adoption lors des marchés aussi, où il y a vraiment énormément d'activités. Il y a beaucoup d'adresses Bitcoin qui sont créées et qui sont utilisées sur le réseau. Donc, on a vraiment une grande hausse qui suit le cours du Bitcoin et qui suit la hype du moment. Et à partir du top, notamment ici en décembre 2017, on a une très très rapide baisse du nombre d'entités, pardon, pas d'entités, du nombre d'adresses actives sur le réseau, qui est significative d'un abandon, en fait, psychologiquement. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont dit, bon, voilà, bah c'est bon, je m'arrête, l'adresse, elle sera plus active, je vais peut-être même enlever, en fait, tous les bitcoins que j'ai sur cette adresse, du coup, j'aurai un solde nul avec une adresse qui n'est pas active. Et ça se sent sur la chaîne. C'est vraiment des données qui sont hyper, hyper riches de sens pour ça. On voit exactement la même chose avec le top de distribution de Week of de mai, justement, 2021, qui avait déjà annoncé d'une certaine façon en fait qu'on était déjà en bear market parce qu'on n'a pas eu de reprise de l'activité des adresses Bitcoin sur le deuxième top de novembre. Et ça, c'est un truc que l'analyse technique ne peut pas forcément anticiper parce que l'analyse technique se base du coup sur l'évolution du prix avec plein d'indicateurs des RSI, des MACD, des moyennes mobiles, beaucoup de choses qui sont riches de sens certainement, mais qui ne vont pas chercher de l'information concrète, structurelle, directement dans les données de la blockchain. Et pour ça, on peut vraiment avoir une force énorme avec l'analyse on-chain si on la couple avec de l'analyse technique pour des niveaux de support et de résistance, par exemple.
Ouais, donc
Donc
là,
ça, c'est un
effectivement,
premier exercice qui est...
ça veut dire que
Oui?
là, les gens ne sont pas revenus en masse et que le prix était supporté par très peu de gens, in fine, c'est ça qu'on peut en déduire?
Oui, exactement. J'aurais pas dit ça mieux que ça. C'est que vraiment, pour l'instant, là, on est sur une période où il y a encore très très peu d'activité et le prix n'est pas supporté en fait par beaucoup de gens. Ce qui se passe à mes yeux, en fait, c'est qu'il y a une forme d'expulsion en fait des boursicoteurs ou des formes de touristes du marché haussier, si on peut dire, et que là, on est vraiment sur une base d'investisseurs qui est, on est avec les investisseurs les plus résilients en ce moment sur le marché. Il reste que des personnes qui ont des convictions énormes, qui sont là pour des années, donc des investisseurs à long terme, des hodlers. Après, on a aussi quelques traders professionnels, évidemment, quelques institutionnels, mais en tout cas, on n'est plus du tout sur la masse, n'est pas présente en ce moment et ça se ressent directement sur les adresses actives. Et encore, là, ce qu'on peut voir, du coup, c'est qu'on a quoi, environ un peu moins d'1 million d'adresses actives par jour, donc on est à peu près à du 880 000 adresses actives par jour. Et là, si j'utilise avec l'onglet suivant les données de Glassnode, qui sont du coup leur heuristique privée sur les entités actives et non pas les adresses actives, on a un signal qui est encore plus clair et qui est encore plus intéressant à mes yeux, parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, en termes d'entités, là, on était sur 800 000 adresses actives, et on se rend compte qu'en termes d'entités, eh ben, on est peut-être à même pas la moitié de ça, on est à quelque chose comme 200, 300, 400 000 entités actives sur le réseau par période, mais sans plus. Et le signal de désinvestissement, d'abandon qu'on a pu avoir en décembre 2017 et ensuite en janvier 2021 est encore plus clair. Si on utilise les adresses, comme tu peux le voir ici, on se rend compte qu'en fait, le réel top de désengagement, il a été chopé directement en janvier 2021 et qu'en fait, la distribution de Wyckoff qui était ici avait déjà été appelée par cette donnée. On peut aussi la croiser avec d'autres données. Là, je la sortirai pas, mais on a aussi pu voir en janvier 2021 ici qu'on a eu des très, très, très fortes sorties de Bitcoin qui ont été vendues à profit par les mineurs. Et ça, c'est typique des tops de marché en réalité. C'est de voir que quand les mineurs se disent waouh, alors là, on est vraiment en profit, eh ben, ils vont se coordonner pour tous ensemble vendre à profit. Mais genre, quand je dis des profits, c'est ils réalisent des fois 20, des fois 40, des fois sur leur investissement, ou du moins sur le récompense de bloc. Et on l'a vu ici en janvier 2021, comme on l'avait vu en décembre 2017. Et donc, ça, c'est vraiment des signaux de top que tu ne peux pas retrouver par de l'analyse fondamentale ou technique parce que tu n'as pas le signal en fait de savoir ok ben, telle adresse c'est un mineur, il a telle rentabilité, il a envoyé tant de bitcoins sur un échange aujourd'hui probablement pour les vendre. Ça c'est vraiment des données qui sont issues de la chaîne et qu'il faut aller scruter et qu'il faut aller interpréter.
Oui, parce que tu peux aussi, du coup, alors soit identifier les adresses des pools assez énormes des mineurs. Donc là, si j'ai bien compris, tu dis ils ont miné pendant 2-3 ans des bitcoins, ils les ont accumulés. Et effectivement, quand le truc il a fait x40, ils vendent pour payer l'électricité ou parce qu'il faut faire du profit. Au bout d'un moment, c'est l'objectif. Donc il y a ça. Et donc ce que tu peux faire, c'est repérer soit l'adresse d'un pool et regarder les sorties ou l'autre sens, c'est-à-dire d'aller chercher une adresse d'un exchange qui est connu et de regarder ce qui rentre dessus. Par exemple, l'adresse de Binance, et on regarde ce qu'il y a dessus, par exemple, c'est ça que tu peux faire?
Ouais, bah exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais les deux en soi. C'est-à-dire que tu vas identifier une pool de minage, tu vas regarder vers où elle envoie ses BTC. Et après, du coup, en sachant où est-ce qu'elle envoie ses BTC, souvent, c'est sur des exchanges. Ils peuvent aussi le faire sur des exchanges OTC ou du pair à pair, mais c'est assez rare. Pour le coup, ils aiment bien envoyer sur des exchanges. Et ce qu'on a vu notamment à ce moment-là, c'était énormément de Bitcoin qui partait en flux sortant depuis les portefeuilles des mineurs et qui arrivait en flux entrant sur FTX et Binance à l'époque. Et du coup, à ce moment-là, c'est intéressant de voir en fait que quand un mineur envoie un BTC sur un échange, ça ne veut pas forcément dire en fait qu'il va le vendre. Tu n'as aucune certitude qu'en fait le mec il n'est pas juste là pour déposer son Bitcoin et pour attendre. Mais dépendamment de la phase de marché, quand tu sais qu'il a une très très forte marge de profit, qu'on est en marché haussier et que c'est typiquement le moment où les personnes réalisent des profits dans la force de la hausse en vendant aux nouveaux entrants qui sont attirés, et bah tu te dis que c'est littéralement en fait le profil psychologique parfait pour vendre. Sachant qu'en plus, les mineurs ont un profil psychologique très très dépensier de nature parce que ben, ils doivent couvrir leurs coûts de CapEx et d'OpEx. Donc, malgré le fait que ce soit des dépensiers assez récurrents, il y a vraiment des périodes dans les marchés haussiers où ils dépensent de manière pas excessive, mais de manière très très reconnaissable en faisant de grands profits. Et ça, c'est souvent un indicateur que le top est pas très loin.
Ouais, d'accord. Ok. Alors ça, c'est les données que tu tous les jours tu regardes par exemple, ou toutes les semaines, c'est quoi la fréquence où tu regardes ces infos et où tu prends les décisions qui s'imposent à partir de là?
Bah, pour le coup, moi, je me suis vraiment pris de passion pour la chose. Donc, honnêtement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps durant 2021 et 2022 à vraiment apprendre à maîtriser, à comprendre les métriques, à les interpréter à ma façon. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps. En réalité, je suis quasiment tous les jours dessus. Là, je commence à mettre en place un système où je regarde un peu moins souvent. J'ai sélectionné des métriques que je regarde un peu moins souvent. Et du coup, ce qui est intéressant maintenant, c'est que je commence à regarder par secteur. OK, je regarde le secteur de l'activité de la blockchain, je regarde le secteur de l'activité des mineurs, je regarde le secteur de la rentabilité de certains types d'investisseurs. Et à partir de ce moment-là, je suis capable d'avoir une analyse qui est un peu plus macro, un peu plus contextuelle de tout l'environnement on-chain de la blockchain.
D'accord, ok. Et tu fais ça qu'avec Bitcoin ou tu fais aussi avec Ethereum, particulièrement là depuis qu'il est passé en 2.0?
Alors, pour le coup, j'ai commencé avec Bitcoin parce que, bah, premièrement, c'est le leader de marché. Du coup, analyser des petits tokens avec de l'analyse on-chain ou de l'analyse technique, ce n'est pas forcément toujours légitime, dépendamment de la phase de marché. J'ai commencé à le faire avec Ethereum. Il y a plusieurs analyses qui sont sorties d'ailleurs, qui étaient assez intéressantes sur Cryptost. Et depuis qu'ils sont en proof of stake, et bah, là, on est vraiment sur une révolution parce qu'on n'analyse plus du tout la blockchain de la même manière avec Ethereum maintenant que c'est en proof of stake. Il faut aller observer le nombre de validateurs, la décentralisation du staking. On peut avoir des traces de comment est-ce que les validateurs sont slashés ou sont récompensés. Donc, il y a vraiment, c'est tout un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir par rapport à Ethereum 2.0 proof of stake. Et du coup, c'est un peu la chose sur laquelle je me concentre en ce moment parce que maintenant que je maîtrise bien Bitcoin avec toutes les théories de proof of work qui sont derrière et tous les aspects psychologiques des différents participants, et ben, je me dis là, il y a vraiment énormément de matière à réflexion par rapport à Ethereum. Après, on peut aussi faire beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de Bitcoin ou Ethereum. On peut aussi faire l'analyse on-chain, par exemple, sur des collections de NFT. J'avais complété un article d'un rédacteur sur Twitter par rapport à Loot for Adventurers, qui était une collection NFT dont on pouvait observer en fait l'évolution des prix de plancher, les floor price au fur et à mesure avec l'activité des NFT, est-ce qu'ils étaient plus ou moins échangés, où est-ce qu'ils avaient été mintés, par qui. Et à partir de là, tu étais capable de savoir si le projet avait de l'attraction, s'il avait de l'ampleur ou s'il était plutôt en train justement de dépérir avec le temps. Donc c'est vraiment quelque chose, en fait, les données publiques sur une blockchain, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, ça s'applique pas forcément qu'au prix d'un actif, ça s'applique pas forcément que à de l'analyse de prix et à des signaux d'investissement. On peut aussi vraiment avoir des signaux de santé, que ce soit sur un réseau décentralisé, distribué, ou que ce soit même sur des collections de NFT. Ça peut être vraiment très très versatile en fait.
Mais effectivement, c'est quelque chose de nouveau dans la mesure où c'est la première fois que n'importe qui peut auditer des marchés financiers comme tu le fais là.
Ah oui, alors clairement, c'est le rêve mouillé de n'importe quel économiste, en fait, à mes yeux. J'en parle souvent parce que je suis en contact avec des analystes comme Checkmates, l'analyste en chef de Glassnode, CryptoWizard, ou bah, des fois Will Clemente quand il a le temps. Mais en fait, on est vraiment en train de développer un outil qui est le c'est ça, le rêve mouillé de n'importe quel économiste de l'ancien temps, parce que eux, pour aller chercher des informations, des data financières, c'est déjà, si t'as pas un terminal Bloomberg, c'est compliqué. Et après, encore là, il faut avoir tes comptes, il faut avoir plein d'activités derrière, il faut avoir des mathématiciens. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut pour Bitcoin, je dis juste qu'en fait, aujourd'hui, l'information est beaucoup plus accessible et qu'en réalité, tout va vraiment venir de comment est-ce que tu vas interpréter cette information, parce qu'elle est très riche, elle est très très variée et elle est accessible quasiment à tous. Après, si vraiment on peut ne pas passer par des fournisseurs de données qui sont payants comme Glassnode, il existe beaucoup, beaucoup aussi. Je pourrais en mettre en description de podcast ou de vidéo si jamais besoin, ou je pourrais écrire un article dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'analystes on-chain indépendants qui proposent leurs propres données on-chain de manière gratuite et en plus open source. Donc en réalité, c'est un domaine qui se démocratise énormément en ce moment. Il y a beaucoup de firmes qui vendent de l'analyse on-chain et qui vendent pardon, soit de l'analyse, soit des données on-chain. On a même Kaiko en France d'ailleurs qui commence à faire des choses intéressantes aussi. Et pourtant, on a vraiment des acteurs qui sont là pour partager de la connaissance. Moi, quand j'ai commencé au début, j'étais vraiment dans un environnement où, sur Twitter, j'avais beaucoup de personnes qui me partageaient énormément de données, qui me disaient, ah bah tiens, regarde, moi je vois ci, je vois ça en ce moment. Et du coup, ça crée une petite communauté de personnes qui scrutent le réseau et qui sont extrêmement alertes. Et ça fait un peu côté, ça fait un peu penser à de l'investigation en fait qu'on peut avoir quand on est dans les cercles de journalistes ou détectives, des choses comme ça.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, il y a de temps en temps des messages. Attention, il y a une adresse d'il y a plus de 10 ans qui a bougé du Bitcoin. Est-ce que ça ne serait pas le retour de Satoshi Nakamoto? Ça aussi, finalement, c'est du on-chain, c'est de l'analyse on-chain.
Ah oui, clairement, clairement. En réalité, toute information qui est issue directement de la blockchain, comme ça va être du on-chain. Il y a même des choses en fait dont on ne se rend pas compte. Exactement, l'exemple des adresses qui sont très très anciennes et qui font déplacer des bitcoins. Souvent, en fait, on ne se rend pas compte. On va chercher l'info comme ça et on va essayer de comprendre son sens. Mais c'est directement issu de l'analyse on-chain, hein, clairement.
Et là aussi, c'est assez amusant de faire le parallèle avec d'autres infos qu'on a pu avoir ces derniers mois, avec Celsius par exemple. Et c'est toute la différence entre, par exemple, une entité centralisée comme Celsius, dont on n'avait pas tous les flux internes parce qu'il y avait un pare-feu qui était Celsius, par rapport à Aave, par exemple, qui est vraiment une application décentralisée, où là aussi, si jamais un jour sur des applications décentralisées, il y a des problèmes de liquidité, toi, tu peux les anticiper avec l'analyse on-chain, chose qu'on ne peut pas faire dans les banques traditionnelles tant que la communication officielle n'est pas sortie, en gros.
Ah ouais, c'est exactement ça. En fait, là, en fait, c'est le jeu de la transparence et ces protocoles décentralisés, justement, jouent le jeu de la transparence. Et eux-mêmes, non, c'est pas qu'ils n'ont plus besoin de faire des rapports, c'est qu'en fait, il y a vraiment des personnes qui les observent. Et ça, à mes yeux, c'est la puissance de la communauté. C'est vraiment être capable d'avoir une communauté bienveillante qui fait de l'investigation on-chain et qui va aller. C'est un peu comme du journalisme participatif ou du journalisme citoyen. Voilà, c'est ça le terme que j'utilise un peu, tu vois, l'investigation citoyenne. C'est vraiment, il y a des participants, des gens passionnés qui sont capables d'aller chercher de l'information alors que nous sommes à l'ère de l'information et qu'il n'y a rien de plus valorisant qu'une information bien interprétée et qui sont du coup capables d'aller renvoyer à leur communauté et de dire, bah, je prends l'exemple de Celsius notamment. Celsius était un petit peu une black box, mais on était quand même capable de suivre certains fonds qu'ils avaient sur la blockchain, tu vois, et de savoir un peu sur quoi ils avaient, sur quelle plateforme de yield notamment ils avaient utilisé les fonds de leurs investisseurs ou de leurs dépositaires. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'histoire de Celsius, qu'on a entendu parler de leurs problèmes de liquidité et probablement d'insolvabilité. Et du coup, tu as beaucoup de personnes qui sont dû venir, ah bah tiens, ça, cette transaction-là, elle vient de Celsius, ok, bah ça veut dire que ce portefeuille-là, il est à Celsius, bah tiens, si on regarde dans le passé, il a envoyé beaucoup de transactions par rapport à FTX, FTX qui en fait lui a envoyé des WBTC contre des W Ethereum par exemple, et tu es vraiment capable d'aller chercher et de retracer tous les agissements d'un acteur, qu'il soit bienveillant ou malveillant, ce qui met énormément de pression en fait d'une certaine manière sur les entreprises aujourd'hui qui font, qui ont des, comment dire, qui ont des actions et qui ont des implications dans les crypto-monnaies, parce qu'ils savent qu'ils sont capables d'être audités par tout le monde, par la communauté, et en fait, ils sont obligés de montrer patte blanche d'une certaine façon, et c'est bien. On arrive dans un système justement où en fait, on n'a plus besoin de leur faire confiance, parce que dans tous les cas, en fait, tout est visible, et ça enlève une certaine partie de la malveillance aussi qu'on peut avoir, j'imagine.
Et en plus, les gens qui le font la plupart du temps, qui font ces analyses, qui font ces rapports, peuvent être rémunérés pour le faire grâce à d'autres tokens de gouvernance ou de participation de la blockchain. Donc, ils sont en plus incentivés à faire ce travail que n'importe qui peut faire, mais que quelqu'un qui va faire avec un peu plus de temps et de précision ne fera pas que pour l'amour et pour le plaisir de l'avoir fait, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose, j'en discutais justement avec quelques analystes il n'y a pas longtemps. En fait, on pense que d'ici pas longtemps, bon, c'est juste une idée qui flotte dans l'air en ce moment dans la communauté, mais on pense qu'il va commencer à avoir, notamment avec la plateforme Dune Analytics, qui est une plateforme open source de requêtes on-chain, des formes de bug bounty, un peu comme ce qu'on peut avoir du coup avec des white hats, et qui vont commencer à aller dire, ouais, bon, on aimerait bien avoir telle information sur tel protocole, ok, et du coup, il va y avoir une forme d'appel d'offres, tu vois, et il va avoir des analystes qui vont être là et qui vont scruter la blockchain un peu en mode, j'ai pas le terme là tout de suite, un peu en mode chasseur de primes, si je puis dire, tu vois. Et on pense que c'est quelque chose qui va se développer dans pas longtemps, justement.
Ouais, des audits de ce qui s'y passe et qui sont bien loin des audits que certaines plateformes centralisées peuvent donner à des audits de sécurité enfin des smart contracts qui sont parfois un peu donnés un peu facilement. Et donc là,
Ah oui.
effectivement, avec cette. Mais encore une fois, c'est la force, l'auditabilité des blockchains ouvertes qui permet ça. Et c'est particulièrement intéressant de savoir la lire. Et alors justement, tous les 15 jours maintenant sur Crypto, sur la chaîne YouTube de Crypto, c'est ces analyses que tu fais. Et allez, en 15-20 minutes, tu me donnes le sentiment interne du marché, si je peux le dire comme ça.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je prends tout le contexte on-chain, j'observe en fait. En fait, l'analyse on-chain, d'une certaine manière, on peut aussi appeler ça de l'économie comportementale à un certain point. Je ne dis pas que je suis un économiste comportemental parce que je suis encore jeune dans mon domaine et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'en suis conscient. Mais pour le coup, excuse-moi, on est vraiment capable d'aller chercher des informations de la part des investisseurs et de voir quelles décisions d'investissement ou de désinvestissement d'ailleurs, ils prennent et quel impact ça va avoir sur le prix. À partir de ça, tu es capable d'aller chercher une psychologie sous-jacente. Et ça, tu peux très très bien le faire, notamment en regardant les prix d'acquisition des bitcoins sur le réseau, en observant par rapport au mouvement du prix, est-ce que les personnes, elles vont commencer à déposer des bitcoins sur les échanges ou est-ce que justement, bah, je prends l'exemple par exemple, tiens, on va le faire en visuel, comme ça les gens et nos auditeurs vont vraiment comprendre la puissance de ce que ça peut donner en termes psychologiques. On va utiliser une métrique qui s'appelle Exchange Net Flow Volume et qui est en fait le flux net des échanges, donc le flux net qui sort ou qui entre des échanges. Donc, si je prends l'exemple de mai 2022 avec l'effondrement de l'écosystème Terra Luna, on a eu une grosse phase de baisse qui nous a mené à un prix d'environ 40 000, à un prix d'environ 30 000 sur le Bitcoin. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des flux entrants sur les échanges, donc des dépôts sur les échanges d'environ 12 000 Bitcoins par jour, voire plus. Donc on avait vraiment une phase de panique où il y avait beaucoup de personnes qui déposaient des BTC sur les échanges, probablement pour les vendre au moment opportun. Donc vraiment un mouvement qui est très très défensif. Donc ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment observer des comportements psychologiques directement issus des données de la blockchain. Donc avec une métrique comme l'Exchange Net Flow Volume, donc c'est le flux net qui rentre ou qui sort des échanges, on est capable de voir quels sont les comportements psychologiques des participants suite par exemple à des fluctuations du prix. Si on prend l'exemple de l'épisode de l'effondrement de l'écosystème Terra Luna, donc en mai 2022, on voit que quand le prix est passé des environ 38 000, 37 000 jusqu'aux 30 000 dollars, on a eu une très très forte phase de dépôt de Bitcoin sur les échanges, qui est à peu près aux alentours de 12 000 Bitcoins par jour. C'est quand même relativement conséquent. Donc là, une forte phase de panique où les participants, psychologiquement, ils se sentent pas du tout à l'aise. Il y a une grosse remise en question en plus sur tout l'écosystème DeFi avec probablement des risques de liquidation à gogo. Et du coup, beaucoup de pertes de confiance, beaucoup de méfiance à ce moment-là et des personnes qui vont du coup déposer des BTC sur les échanges, probablement pour les vendre quand ils pensent que ce sera opportun si ce n'est pas déjà fait. Et on voit un comportement totalement opposé avec la chute qu'il y a eu par la suite, du coup en juillet, juin-juillet 2022, où le Bitcoin du coup est passé cette fois-ci des 30 à 20 000 dollars. Et ce qui est fascinant de voir à ce moment-là, c'est qu'en fait, on a eu une très très forte phase cette fois-ci de retrait. En fait, les personnes, elles ont retiré environ, cette fois-ci, pareil, hein, entre 9 et 12 000 bitcoins par jour pendant environ 3-4 jours depuis les échanges. Et en fait, ça nous montre qu'à ce moment-là, justement, il n'y avait pas du tout une phase de panique, qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont vendu sur le marché spot, mais qu'en réalité, derrière les coulisses, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris cette opportunité comme, qui ont été extrêmement opportunistes, en fait, et qui se sont dit, bah là, on est au niveau des 20 000, c'est un niveau symbolique, en fait, je suis prêt à rentrer sur le marché maintenant. Et du coup, ils ont retiré beaucoup de BTC, ils ont acheté pas mal de BTC, ils les ont envoyés sur leur wallet. Et du coup, ça nous montre qu'on peut vraiment avoir, par rapport à une action de prix similaire, du coup, qui est une grosse baisse du prix, avec un écart de seulement un mois environ, deux comportements psychologiques totalement différents sur la chaîne.
Et là, c'est pareil, tu pouvais voir à l'époque, et je t'ai entendu parler de risque de liquidation en chaîne, là, quand effectivement il y avait la première vague sur que tu as montré de gens qui ont envoyé vers les échanges. On pouvait également regarder les prix de liquidation de MakerDAO, de Aave et de tous les dépôts en fait, qu'avaient fait les utilisateurs sur ces plateformes-là. On pouvait se dire, grâce à l'analyse on-chain, OK, bah, si Ethereum descend à tel prix, bon, en fait, ça va liquider le reste, qui va liquider le reste, et ainsi de suite.
Exactement, on était capable de voir les prix de liquidation, tu as tout compris, avec un outil qui s'appelle Parsec Finance, notamment, qui a été bien mis à l'avant de la scène à ce moment-là. Et si même je reprends l'épisode Celsius, pendant un bon moment, le vault numéro 2587, donc le vault de Celsius sur lequel ils avaient contracté, ils avaient mis beaucoup de WBTC en échange de DAI en collatéral, il avait été partagé par tout le crypto Twitter parce que justement, en fait, on avait vu que leur prix de liquidation était très, très proche de celui de Bitcoin à un moment. Et bah, ça a fait beaucoup bouger et ça a beaucoup interpellé la communauté parce qu'on était capable de tout le monde était capable de voir en live le prix de liquidation de Celsius se rapprocher du prix spot du marché. Bon, après, au bout d'un moment, c'est bon, ils ont remboursé une partie de leur collatéral, ce qui a fait baisser leur prix de liquidation et ils se sont retrouvés au niveau des 11 000 dollars, ce qui n'a pas encore été atteint, du coup, touche du bois, mais ils en sont bien sortis. Mais c'est vraiment un exemple, justement, de données on-chain qui sont issues de l'auditabilité, justement, de ces données ouvertes et publiques. Et d'une certaine façon, c'est la plus grande puissance de l'open source. Internet est par nature open source, bien que certains aient essayé de l'acheter moult, moult fois, et issu d'Internet, qui est un des plus grands outils que l'humanité ait pu mettre à jour, et ben, issu de cet outil-là, on a Bitcoin. Bitcoin qui est une forme de quintessence de la monnaie open source d'une certaine manière, et qui du coup nous permet d'avoir de l'information vérifiable, auditable, de qualité, pour tous et qui, du coup, ben, nous empêche en fait de ne pas nous faire confiance. C'est magnifique, je trouve.
Moi, je trouve ça effectivement assez dingue et c'était la discussion que j'avais eue avec certains aussi, hein, personnes de l'écosystème qui pensent que, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, il y aura une sorte de Mediapart de l'analyse on-chain et qu'ils iront regarder de plus en plus de flux puisque de plus en plus d'infrastructures, d'institutionnalisation, enfin d'institutionnel, pardon, et justement cette institutionnalisation, je vais y arriver, j'ai toujours un peu de mal, de la cryptosphère, nous les pousse en fait à devoir y arriver et permet aux utilisateurs d'aller vérifier tout ce qui s'y passe et que justement un jour il y aura des gens spécialistes qui diront oula, il se passe des choses bizarres par là sans devoir avoir des sources particulières ou de passer par des systèmes détournés puisque ça sera par nature auditable et transparent. Pour finir sur l'échange, est-ce que tu pourrais nous donner justement l'info que toi sur ces dernières années d'observation de la blockchain, l'info qui t'a le plus marqué, que tu as pu retrouver grâce à ces outils, ou peut-être l'outil qui te bluffe le plus sur Glassnode ou ailleurs?
Ah, c'est intéressant comme question, ça. Un des outils qui me fascine le plus, c'est un des outils qui est lié en fait au prix d'acquisition des bitcoins, c'est le prix réalisé. C'est pas forcément le plus complexe, c'est un truc relativement simple à appréhender, bah, je l'ai juste ici. Et le prix réalisé de Bitcoin, sous diverses déclinaisons, il est vraiment riche de sens à mes yeux. En gros, pour faire simple, le prix réalisé de Bitcoin, là j'ai vraiment pris du coup le prix moyen de tous les UTXO du marché. C'est très simple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si tu prends une UTXO à son dernier mouvement, du coup à sa destruction et à sa réacquisition par quelqu'un d'autre, tu vois à quel prix cette UTXO a bougé pour la dernière fois et tu vois que tu compares avec le prix spot et tu te dis ok, bah, est-ce qu'il est en profit ou est-ce qu'il est en perte? Et le graphique qui est juste devant nous en ce moment, justement cette courbe orange, c'est le prix d'acquisition moyen de toutes les UTXO qui circulent sur le réseau. Et c'est hyper riche de sens parce que ça permet vraiment de savoir à quel moment la majorité du réseau est sous l'eau ou à quel moment la majorité du réseau est en profit. Et ça nous permet vraiment comment dire, d'identifier distinctement des périodes pendant les marchés baissiers où on a vraiment des opportunités d'achat qui sont magnifiques. Simplement parce qu'on est capable de dire, OK, à ce moment-là, eh ben, il y a plus de la majorité des UTXO qui sont sur le réseau et qui circulent, qui sont avec une perte latente. Et en fait, historiquement, toutes les périodes où le prix spot du Bitcoin est sous le prix réalisé, ça a été des périodes d'accumulation durant les marchés baissiers qui ont été, sur les années qui ont suivi, les meilleures périodes en fait pour accumuler du Bitcoin sur le long terme. Et ça, c'est vraiment. On peut avoir des indicateurs qui sont court terme sur le prix de Bitcoin. Moi, je m'intéresse plus à des indicateurs qui sont sur le long terme, qui vont observer le mouvement des participants sur plusieurs cycles en fait, pour essayer vraiment d'en tirer la psychologie sous-jacente. Et pour le coup, le prix réalisé de Bitcoin, c'est vraiment un des indicateurs qui est les plus simples, qui est le plus riche de sens, qui a une information, mais vraiment de type alpha très très forte, et qui permet de prendre des décisions d'investissement ou de désinvestissement qui sont très très éclairées en réalité. Après, ce que j'aimerais souligner quelque chose, c'est que, encore une fois, l'analyse on-chain est un domaine qui est très très jeune. On est sur un domaine qui a peut-être, on a commencé presque en 2017 avec Willy Woo, du coup on a 5 ans peut-être de backtest vraiment global. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on commence vraiment à avoir beaucoup d'analystes on-chain sur le terrain qui commencent à bien maîtriser les métriques et les outils, mais on est vraiment sur un domaine qui est jeune, qui est en pleine expansion. Et on est en fait en train, j'en parlais avec les autres l'analyste la dernière fois, on est en train d'apprendre en fait encore aujourd'hui, on est en train de construire un écosystème d'analyse sur Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies avec des blockchains ouvertes. Et on est encore très très jeune, notamment aussi du fait que, en plus du fait qu'on est dans un environnement qui est encore pas tout à fait mature et qu'on est en train de construire, eh ben on vit un contexte macroéconomique, en dehors du contexte on-chain de seulement Bitcoin et du secteur des crypto-monnaies, on vit un contexte macroéconomique absolument inédit dans l'histoire de Bitcoin. On est en train de passer d'un environnement qui était très, très, avec beaucoup de quantitative easing, avec beaucoup d'assouplissement, à un environnement où justement les liquidités mondiales sont en train de se rétrécir. On a des conflits cinétiques en Europe. Il y a plein de données qui sont au niveau de l'énergie et de la macroéconomie qui en fait impacte énormément de Bitcoin parce que Bitcoin est un actif à risque qui est en fait dépendant des données macroéconomiques mondiales. Et en fait, on est en train d'analyser et de développer des outils sur un secteur qui est en train d'être impacté par tout ce qui se passe au niveau mondial, ce qui veut dire qu'il faut être encore plus prudent d'une certaine façon.
Oui, mais c'est la première fois qu'il sera stress testé de cette manière. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il a été créé, en fait, le Bitcoin, pour faire face à ce genre de problématique, en théorie.
Oui, exactement. Et c'est ça, c'est un stress test énorme. Et du coup, l'analyse on-chain est là, du coup, pour observer dans le contexte on-chain de Bitcoin à quel point la santé du réseau Bitcoin et la santé du marché de Bitcoin vont réagir justement à de tels contextes adversariaux.
Et chaque semaine, tu le précises sur le site de Cryptost, et tous les 15 jours sur la chaîne YouTube, tu nous fais justement ce petit débrief que je mettrai en description, puisque la première a eu lieu il y a une semaine maintenant. Et donc, on te retrouvera la semaine prochaine pour actualiser tout ça. Et c'est en France, tu es le seul à permettre ce genre d'analyse et surtout son interprétation, parce que c'est une chose de le voir sur l'écran, c'est autre chose de le comprendre et de le décrypter. Et c'est ce que tu fais. Donc, maintenant, tous les 15 jours sur la chaîne YouTube, et je suis très content, puisque encore une fois, c'est le seul média, même plus que le seul média, parce qu'il n'y a vraiment personne qui fait ce genre de choses publiquement. Donc, c'est excellent de pouvoir le faire à nos côtés chez Cryptost. Merci beaucoup en tout cas, Prof Chain, pour cette petite présentation. Tous ceux que ça intéresse, je mets en description les articles que tu as pu faire et tes réseaux sociaux, parce que tu es aussi actif sur Twitter. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine sur YouTube avec une nouvelle analyse on-chain et sa description. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était un plaisir, Valentin.